Bonjour tout le monde, nous sommes à l'école Jeanne d'Arc en classe de CM2 avec Noémie.
Globule Radio nous a aidé à construire cette émission. On a appris à utiliser le matériel de radio, les enregistreurs, les casques, les micros, la bonnette.
En fait, ça sert à quoi la bonnette?
Ça sert à enlever les plopes.
On a fait un voyage de presse, on est parti en train de la gare de Chamonix. Nous avons changé de train à Valorcine pour aller à Salvan. Salvan, c'est en Suisse, dans la vallée du Trien. Ce sont les glaciers qui ont creusé la vallée du Trien. Donc, nous sommes le groupe qui est parti avec Jean à Salvan.
Nous sommes Ariette,
Loris,
Merlin,
Raphaël,
Chani,
Rufus
et Lucas.
Nous avons été accueillis par Tchoum à Salvan. Il nous a guidés dans le musée Marconi, puis nous a emmenés au moulin à eau. Ensuite, on a repris le train pour aller à Valorcine. Nous sommes contents de vous emmener avec nous à la découverte de nos voisins. Avant de retrouver Ariette, on s'ambiance avec TNT de ACDC.
Ça décoiffe. Je suis Ariette Binks, j'ai 11 ans, j'adore la natation. Je fais même des compétitions. Je porte des lunettes que j'enlève pour nager. J'ai un grand frère qui s'appelle Tommy. Il m'énerve beaucoup, mais je l'aime bien. Je me suis intéressée au musée Marconi et j'ai eu la chance de poser mes questions à Tchoum.
À tes souhaits.
Je lui ai demandé qui était Marconi.
Alors, Marconi a inventé la radio. C'est peut-être pas tout à fait juste à inventer la radio,
mais a mis ensemble des éléments techniques qui étaient découverts par d'autres savants. Il a mis en place ces éléments pour faire un émetteur et un récepteur. Il a employé l'éclateur de Righi et la bobine de Roentgen pour les éléments principaux, pour créer un arc électrique, donc une onde électromagnétique, qui a été récupérée à travers des antennes vraiment artisanales qu'il avait créées à l'époque. Et de l'autre côté, pour le récepteur, c'est le cohéreur de Branly, c'est un petit tube en verre dans lequel il y a la limaille de fer. Et quand on met le plus et le moins d'un côté, la limaille, elle se solidarise et ça crée le contact. Donc, ça transmet le son qui est provoqué par les ondes électromagnétiques dans le récepteur et c'est le départ de la radio. Alors, on dit c'est le départ de la radio parce qu'à ce moment-là, on ne parlait pas. On travaillait avec l'alphabet Morse, avec des signaux Morse pour communiquer. La radio, c'est venu après. La technologie de la radio est venue bien après. On a commencé à transmettre la voix, la musique. Ça, mais ça, c'est venu plus tard. C'est pas directement Marconi qui a fait, c'est les industries que Marconi a créées après qui ont fait l'évolution de la radio. Mais là, il n'est pas tout seul par rapport à la radio. Mais par rapport au fait, la grande découverte de Marconi, ça s'appelle en fait la TSF, la télégraphie sans fil. Ça veut dire, comme je vous l'expliquais ce matin, où c'est qu'on a coupé le fil du téléphone pour pouvoir communiquer avec deux appareils qui sont séparés l'un de l'autre par l'air et c'est à ce sac qu'a découvert Marconi.
Où était fabriquée la radio?
Alors, dont on parle de Marconi, il a monté ça à la maison. C'était pas un élève très studieux, Marconi. Il aimait pas aller à l'école. Alors, c'est les professeurs qui venaient chez lui à la maison pour faire l'école. Et dans ces professeurs, il en avait un qui aimait beaucoup l'électricité, la chimie et l'électricité. Et il a donné un petit peu, comme on dit, le virus à Marconi, qui a commencé à faire différents travaux. À 18 ans, il a créé la première pile électrique. Pas la même qui va dans le petit appareil, là, c'est une pile énorme, mais c'était déjà une pile électrique. Et il a continué ses travaux pour arriver justement à fabriquer cet émetteur et récepteur.
Et pourquoi ils ont construit le musée Marconi?
À Salvan?
Oui.
Alors, à Salvan, le musée Marconi a été fait parce que Marconi, donc, il a fait ses premiers essais réussis en 1894 à Sasso Marconi, à la Villa Griffone, la villa où c'est qu'il habitait, la maison où c'est qu'il habitait. Et en 1895, il est venu ici à Salvan et avec l'aide d'un petit assistant qui s'appelait Maurice Gebalma, il a continué ses essais ici. Ici, il a réussi à faire un essai de transmission sans fil sur une distance de 1500 mètres qui était à l'époque quelque chose d'énorme et que personne n'avait jamais vu.
Et quand a été construit le musée Marconi?
Alors, le musée Marconi, ici à Salvan, il est en place depuis 1996. C'était pour célébrer quand Marconi a vendu son brevet aux Anglais en 1896 et pour un petit peu reconstituer ce qui a été fait sur la base du témoignage de Maurice Gebalma qui a raconté cette histoire assez tard. Et dès en 1976, ce ferreur, la première fois, c'est qu'il a parlé de ce qui lui était arrivé quand il était enfant, puisqu'il avait 12 ans quand Marconi était ici à Salvan. Et c'est depuis lors qu'on a commencé à célébrer le passage de Marconi. Et pour les 100 ans de la mise en place du système qui a permis d'avoir des survivants au Titanic, on a monté cette exposition et augmenté les témoignages et tout ça, et mis en place tout ça.
Merci, t'as des choses à rajouter?
Alors non, sinon que je suis très content d'avoir pu faire participer toute cette petite ribambelle de jeunes gens, puisque j'ai compris, vous avez exactement l'âge qu'avait Marconi avait 21 ans, qu'avait le petit assistant, donc Maurice Gebalma. Alors je suis très content d'avoir partagé ça avec vous.
Merci, au revoir.
Alors moi, c'est Raphaël, j'ai 10 ans et j'adore la moto, comme mon père. Lui, il a une Suzuki et quand je serai grand, j'aurai une Ducati. Bon, pour le moment, c'est pas de moto dont je vais vous parler, mais plutôt du moulin à eau. C'est encore Tchoum qui a répondu à mes questions. J'ai voulu savoir où il était situé.
Alors, le moulin à eau, ou nous on dit le moulin à fine, parce que c'est le surnom du dernier meunier qui a travaillé dans ce moulin, il se situe dans le bas de Salvan. À l'entrée du village de Salvan, quand on vient depuis Martigny en voiture, c'est une petite maison qu'on voit bien depuis la route. Et c'est le dernier moulin qui est encore en fonction. sur ce torrent qui est le torrent de Zintala et sur lequel il y avait anciennement 8 roues qui tournaient, 2 scieries, 4 moulins à grains et 2 moulins à fruits.
D'accord. Après,
quels sont les risques, c'est ça? Alors, dans le moulin, le plus grand danger, c'est l'incendie. Parce que quand on fait de la farine, on voit pas, mais il y a une poussière énorme quand le moulin il tourne, qui est partout dans le moulin. Et si y a une étincelle qui est provoquée, quelle qu'elle soit, ça peut mettre le feu au moulin. Et c'est pas rien que dans ce petit moulin ici, c'est dans tous les moulins du monde où c'est qu'il y a, où c'est qu'on fait justement de la farine. Le plus grand danger, c'est l'incendie. C'est pour ça qu'il y a des systèmes de protection dans les moulins industriels, mais aussi ici dans ce moulin artisanal, si on ose dire, où c'est qu'il y a deux systèmes qui permettent d'une part d'avertir le meunier parce qu'il y a plus de grains dans les pierres. Et quand les deux pierres se frottent, ça fait les deux pierres se frottent vraiment dur, ça peut faire des étincelles, donc mettre le feu. Donc il y a un système qui a d'abord averti par une sonnerie, dire qu'il y a plus de grains dans la caisse, qu'il faut arrêter le moulin ou remettre du grain. Et puis, si vraiment il entend pas, il y a un deuxième système, automatique, si on ose dire, où c'est que l'eau, elle s'en va dessus la roue et le moulin s'arrête automatiquement.
D'accord. Et y a-t-il un système d'alarme?
C'est les deux systèmes d'alarme. D'une part, la sonnerie et après, l'arrêt automatique du moulin. Mais le premier système d'alarme, c'est justement quand il y a plus de grains, il y a une palette qui se lève et puis ça sonne pour avertir le meunier.
Y a-t-il déjà eu un feu dans le moulin?
Alors, dans celui-ci, non. Enfin, depuis 1995, qu'on a reconstruit, enfin, réhabilité ce moulin, pas reconstruit les murs, mais tout l'intérieur était complètement détruit. Les pierres étaient tout en bas, tout était pourri. Donc en 1995, on a remis en fonction le moulin. Là, on n'a jamais eu d'incendie. Mais auparavant, je peux pas te dire s'il y avait déjà eu des incendies sur les moulins anciennement, je sais pas. Mais par contre, il y a dans les moulins, les grands moulins, il y a eu des grands incendies, bien sûr, il y en a eu.
Qu'est-ce qu'on produit avec le moulin?
Alors, avec le moulin, ici, on produit de la farine. Donc, on peut faire de la farine, comme je disais tout à l'heure, comme on emploie pour faire les biscuits, la farine blanche, la farine toute fine, ou bien de la farine qu'on fait maintenant principalement, c'est de la farine bise, c'est pour faire le pain. Le pain qui reste un petit peu croustillant, il y a des petits grains dedans. Mais autrement, seulement, et ben, comme j'ai dit, il y a les moulins à grains et les moulins à fruits. Vous savez qu'ils écrasaient les pommes et les poires pour faire du jus.
D'accord. Comment fonctionne le moulin?
Alors le moulin, il fonctionne à la force de l'eau, comme beaucoup de moulins anciennement. Donc on canalise, on récupère l'eau, ici c'est l'eau du torrent, qu'on canalise, qu'on envoie dans un petit canal en bois qui s'appelle le bief. L'eau tombe sur la roue à auget, donc c'est une roue comme une roue à aube qui a des petits caissons. Et puis le poids de l'eau, la force de l'eau et le poids de l'eau font tourner cette roue qui emmène l'axe et après la pierre tournante du moulin.
Qui dirige le moulin?
Il y avait un meunier par moulin, ici c'était François Affine, François Descaillets dit François Affine, c'est pour ça que le moulin, on lui a donné le nom de moulin Affine. Et puis les meuniers, et ça lui permettait de gagner un peu d'argent, dans le sens où c'est qu'il... Les gens amenaient le grain, ils pesaient le grain, et pour tant de kilos de grain, ou ils le payaient, ou bien ils lui laissaient la farine, et puis lui vendait la farine au boulanger ou aux gens qui voulaient l'acheter.
D'accord. Pourquoi c'est un moulin à eau?
Mais parce que c'était... Alors les moulins, ils sont presque partout dans le monde où c'est qu'il y a de l'eau. Dans le désert, c'est pas de l'eau puisqu'il y a pas d'eau, c'est les ânes ou les chevaux qui font tourner les pierres pour faire la farine. Donc ici, ils utilisaient la force de l'eau parce que l'eau qu'elle coule naturellement dans un torrent ou bien qu'elle serve à faire tourner une roue, elle coûte rien du tout. Elle est de toute façon là. Donc ils utilisaient cette force gratuite, si on veut, qui leur était donnée par la nature pour faire fonctionner les moulins.
D'accord. Au revoir, maintenant je dois manger mon sandwich qui n'est pas fait avec le même pain que vous faites.
Bon, malheureusement pas. Si on avait su plus longtemps à l'avance que vous alliez venir aujourd'hui, on aurait pu essayer, parce qu'on a encore un petit stock de farine de dire au boulanger qu'il vous fasse des pains. La prochaine fois, il faut nous dire.
Merci Raphaël pour cette interview. On écoute Yellow Submarine. On a choisi cette musique car on la chante au spectacle de l'école.
C'est plutôt cool pour commencer à apprendre l'anglais. Nous sommes toujours sur Globule Radio. We all live in a yellow submarine.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found a sea of green. And we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Je m'appelle Lucas, j'adore faire du skate comme mes parents. Je préfère le bol, toujours Tchoum au micro de Globule Radio, pour nous parler cette fois-ci de la route des diligences. Et je lui ai demandé l'origine de la diligence.
Alors, exactement quand la route des diligences a été faite, je ne peux pas te dire l'année, mais c'est très très vieux, puisque c'est le seul chemin d'accès qu'il y avait dans toute la vallée pour traverser depuis la plaine, donc Martigny ou Verneuil, le village de la plaine, pour aller jusqu'à Chamonix ou voir Saint-Gervais plus loin. Mais la construction, même l'année de la route des diligences, comme elle est maintenant, ben sérieusement, tu me poses une colle, je sais pas.
D'accord. Sinon, vous savez comment s'appelle le conducteur d'une diligence?
Un cocher? Non, un cocher, c'est celui qui conduit... Conducteur d'une diligence. Eh ben, deuxième col? Non, je sais pas. C'est les cochers, c'est ceux qui conduisaient les voitures à cheval comme les taxis dans les villes. Ça s'appelait les cochers. Mais je pense que c'est quand même le cocher.
Et vous savez quelle est la vitesse de la diligence en moyenne?
Alors, ça dépend si c'est au plat ou bien si c'est à la montée. Pour monter depuis Verneuil jusqu'à Salvan, donc il y a 700 mètres de dénivelé. La pente moyenne à 15%. Donc les chevaux, je pense qu'ils faisaient du 4-5 à l'heure.
D'accord. Sinon, vous savez combien de kilomètres c'est entre les étapes? Combien de kilomètres entre les étapes?
Alors, donc l'étape principale, c'était la plus grande étape pour monter, c'était de Verneuil, jusqu'à Salvan. Ça, c'était la grande étape. Il y a 5,5 km de chemin. Et puis après, il y a une petite étape qui allait depuis Salvan jusqu'au Trétien. Là, c'est 1,5 km. Et puis après, une étape donc si on va jusqu'à Chamonix, il y a une étape qui était depuis fin de Trétien à fin août. Là, de nouveau, avec des lacets, c'était assez difficile. Aussi, pas très grande, 1,5 km. Et puis après, il y avait une grande étape qui allait jusqu'à Argentière. Et là, c'est de nouveau 6 ou 7 km, mais la différence, que c'était presque à plat et après en descente, à l'inverse de ici.
D'accord. Sinon, vous savez, quelle est l'origine de la diligence?
Alors, l'origine d'un veau, c'est très vieux, l'origine. C'est comme les chars à chevaux, déjà du temps des Romains, ils avaient des chars attelés et tout ça. Donc, l'origine de la diligence, ce qu'on appelle la diligence qui était ici, c'était des voitures attelées, hein. C'est pas une diligence, comme je dis tout à l'heure, comme au Far West, où c'est qu'il y avait 12 chevaux devant, puisqu'il y avait un cheval, voire deux chevaux quand ils transportaient des choses assez lourdes, parce que le chemin était très étroit, permettait pas d'avoir beaucoup de chevaux dedans. Donc c'est une voiture attelée, c'est pas, nous on dit la route des diligences pour lui donner un nom, mais en fait c'était des voitures attelées, c'était pas ça. Et l'origine de ces voitures attelées, c'est très très vieux, puisque je dis déjà du temps des Romains, donc ça fait plus de 2000 ans que ce genre de chariot existe.
D'accord, et sinon, vous savez que transportaient les diligences?
Alors les diligences, ils transportaient à l'époque essentiellement des gens et les bagages des gens, plus de la marchandise pour alimenter les hôtels de ce qui venait depuis la plaine. Mais essentiellement, c'était des touristes qui traversaient la vallée, donc avec les gens et les bagages. Et puis, je dis aussi la marchandise qui remontait depuis la plaine.
D'accord. Au revoir.
Au revoir, jeune homme. À bientôt.
Moi, c'est Sean, et j'aime bien le golf. J'ai le drapeau jaune. J'aime le foot, le snowboard, et pas trop l'école. J'avais envie de vous parler des mines d'arsenic de Salvan parce que ça m'intriguait.
Moi, je m'appelle Rufus, je fais du handball et j'aime le foot. Moi, ce qui m'intriguait, c'était la mine d'or de Salvan. Alors, venez avec Sean, Marin et moi dans les mines d'or et d'arsenic.
C'est des gens qui cherchent de l'or qui créent des mines d'arsenic. Dans les années 1890, ils ont commencé à miner dans la région. Ils utilisent des explosifs pour créer une mine pour chercher de l'or où ils ont aussi trouvé de l'arsenic. Et maintenant, je donne la parole à Marin qui va nous parler des mines d'or.
Avez-vous envie de s'enrichir? Savez-vous que 1 gramme d'or vaut 60 euros? Et vous pouvez même en trouver à la vallée du Trien. Bah ouais, aujourd'hui je vous parle de la mine à côté du lac de Salanf. Le lac de Salanf, perché à 2000 mètres d'altitude entre les Dents du Midi et la vallée du Trien, se situe sur une frontière géologique majeure, constituée de roches les plus anciennes de Suisse romande, avec l'empilement des couches calcaires qui témoignent de la présence d'une mer. Il y a seulement 150 millions d'années. Cette situation géologique exceptionnelle permet d'observer les trois types de roches sur notre planète et de découvrir de véritables trésors géologiques comme la mine d'or exploitée au début du XXe siècle. Comment on a trouvé la mine? Par hasard. Qui l'a trouvée? Des alpinistes. En ce moment, a-t-il toujours de l'or? Oui. Comment amenons l'or avec des wagonnets? Où se trouve la mine? À côté du lac de Salanf. Découverte au début du XXe siècle, la mine a été exploitée jusqu'en 1936 avec une récolte de paillettes d'or qui mesure 10 microns est égal 1 centième de millimètre, donc invisible à l'œil nu. L'or était surtout utilisé pour des bijoux et comme contre-valeur des billets de banque. Si ça vous intéresse, rendez-vous au musée des sciences de la Terre.
Il est temps pour nous de rentrer en France. Moi, c'est Laurie, je vais vous parler de la pêche dans les eaux noires. Car je suis passionnée de pêche comme mon grand-père. Ma meilleure prise, c'est une truite arc-en-ciel de 5 kg. J'ai rencontré Jean, un pêcheur du dimanche, et on a discuté entre passionnés.
Alors bonjour, moi c'est Fortesian. Aujourd'hui, je suis avec Laurie, c'est un petit pêcheur de Valorcine, du coup. Et puis je vais te poser 2-3 questions. Déjà, commence par te présenter.
Bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 10 ans. Je pêche énormément à Valorcine. Pêchez-vous quelque chose ici?
Bah, Moi, c'est vrai que je pêche un petit peu. Donc, du coup, tu pêches. Dis-moi un peu quelle sorte de poisson on peut trouver dans cette rivière.
Bah, énormément de truites fario, un peu d'arc quand il lâche dans les concours. Aujourd'hui, je suis en sortie scolaire avec ma maîtresse Noémie et je voulais te parler des eaux noires.
Qu'est-ce que l'eau noire, du coup ?
L'eau noire est une rivière avec un fond très noir. Quand il y a un peu de vent, quand ça fait mauvais, le fond noir se bouge et ça fait une sorte du sable qui fait partir dans l'eau noire. Cette rivière se situe à Valorcine. Cette rivière prend sa source au col de l'Encrenaz, se jette dans le Rhône.
Ok, super. Eh bah, merci beaucoup pour ces petites informations sur cet endroit qui est, ma foi, plutôt agréable.
Merci, Jean.
Alors moi, j'ai jamais pêché de ma vie, mais tu m'emmèneras, Loris ?
Oui, avec plaisir.
Je m'appelle Merlin, j'aime le foot et je fais des tournois internationaux. Je fais aussi du snow. C'est Xavier Dunant qui m'a parlé du barrage de Barberine et j'ai adoré ce moment. Je lui ai demandé quand avait été construit le barrage.
Ce barrage, il est construit dans les années 1920. C'est un barrage qui est construit pour faire de l'électricité pour le chemin de fer.
Quel est le cours d'eau du barrage de Barberine ?
Alors, tout ce coin-là, il s'appelle Barberine. C'est déjà le nom de la rivière qui descend dans la vallée, qui fait la frontière aujourd'hui avec la Suisse, enfin le canton du Valais. Donc, il n'y a pas une seule rivière, en fait, qui va remplir ce barrage. Mais il n'y en a qu'une seule qui coule depuis ce lieu-là, qui s'appelle la Barberine.
Par qui a-t-il été créé ?
Alors, je disais, c'est un barrage qui a été fait pour les chemins de fer. Donc, c'est les chemins de fer fédéraux font fonctionner le train depuis Martigny, qui passe par Verneuilla, Salvan, et puis toute la vallée du Trien hein, jusqu'à Finhaut, et puis qui revient jusqu'à Valorcine. Donc, c'est un train électrique. Dès 1906, ce train fonctionne, et il fonctionne déjà à l'électricité. Alors, ils ont créé donc petit à petit des structures pour fabriquer cette électricité.
Où est situé le barrage ?
Alors, le barrage, il est dans un vallon qu'on va appeler encore Barberine, puisque c'est l'origine du torrent qui s'appelle Barberine. Et c'est vrai qu'il y avait un alpage. On retrouve à côté encore un autre nom, hein, avec Barberine, c'est le col de Barberine, un petit peu plus loin. Et puis, juste avant, il y avait un autre alpage qui s'appelait Émosson. Quand ils ont construit ce deuxième barrage, ils ont donc appelé le deuxième barrage du nom du deuxième alpage, Émosson. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, ce barrage, ce qui est particulier, c'est comment il est construit. Mais peut-être que tu as des questions dessus après. Et c'est pourquoi on le voit pas, quoi. Alors, il est construit tout en pierre de taille, qui ont été taillées dans les rochers qui sont tout autour. Donc, du coup, il y avait un petit train qui permettait d'amener des rochers et puis d'amener des matériaux. Ce petit train, il existe encore parce que c'est un train qui est un train touristique aujourd'hui. Et puis en fait, je connais pas tellement sa hauteur et puis sa largeur, parce que quand le barrage des Moissons est plein, il y a 22 mètres d'eau au-dessus de ce barrage-là. Alors on le voit pas très souvent.
À quoi sert le barrage ?
Alors comme je l'ai dit, ça sert à fabriquer de l'électricité. C'est pas un barrage pour garder de l'eau potable, mais c'est pour fabriquer de l'électricité. Alors on imagine que l'eau qui coule, comme une cascade, elle a beaucoup d'énergie, et du coup on fait tourner une roue, et puis la roue elle va fabriquer de l'électricité.
D'accord, merci, au revoir.
Merci Merlin, je ne connaissais pas le barrage de Barberine. Si vous êtes d'accord, on part avec un verre de Zola.
Oui.
Oui.
Je suis la légende sous sa photo. J'sais que tu me veux juste pour toi. Amber, dis-moi pourquoi. Devant vous, c'est ma peau. Tout. T'emmènes grave, le boss me tue, toi. Mais sur TikTok, y'a-tu le temps. J'préfère voir mes habits pleins de sang. Mes amis pleins de sang. Ouais, t'as mis ta babe sur le tech-tech et tout est à l'eau sang. Moi, j'l'appelle Amber. Mais son blast, c'est un. J'l'aime la ken depuis le collège, mais j'étais trop un con. Mets nos gosses dans un mouchoir. Si tu me loves, c'est la même. Je fume la zaza et je tombe dans un trou noir. Peu l'autre, demain la même. Je te parle à toi, qu'est-ce qu'il y a? tout ça sans une caisse claire. Je déboule dans une caisse son qu'est-ce qu'il y a, je dois seulement péter le caisse.
Aucune émotion, trop de chagrin enchaîné. Je cache mes émotions, c'est vu comme faible chez nous. J'ai une babe, c'est une bonne chance d'alipé. Pas de bonne chance d'alipé. Je préfère voir mes habits plein de sang, mes amis plein de sang. Ouais, t'as mis ta babe sur le tec-tec et tout est à l'eau sang. Moi je l'appelle Amber, mais son blas c'est en moi. Je voulais ma ken depuis le collège, mais j'étais trop un con. T'en connais un qui fait ça. Des meufs comme Amber t'en trouvent nulle part. C'est elle qui tombe dessus. Toi je ne sais pas mais t'es franchement pas. Je t'appelle Amber ou en ou bien mon cœur ou je ne sais plus. Aucune émotion, trop de chagrin enchaîné. Je cache mes émotions, c'est plus comme faible chez nous. J'ai une babe, c'est une bonne chance d'alipé. Pas de bonne chance d'alipé. Je préfère voir mes habits plein de sang. Mes amis plein de sang. Ouais, t'as mis ta babe sur le tec-tec et tout est à l'eau sang. Moi je l'appelle Amber, mais son blas c'est en moi. Je voulais me la ken depuis le collège, mais j'étais trop un con.
On s'est bien amusé avec tous les potes et on a appris plein de nouvelles choses sur la vallée du Trien. Un grand merci à tous ceux qui ont répondu à nos questions, comme notre nouveau ami expert Tchoum à Salvan et Xavier Dunant à Valorcine. Merci également à notre prof Noémie d'avoir organisé ce voyage de presse et bien sûr Globule Radio pour l'encadrement journaliste tout au long de l'année scolaire. Et n'oublie pas de remercier l'hôtel Skyrock pour la racaille. Ils ont fait un menu délicieux avec une trop bonne raclette et l'un des plus gros plateaux de charcuterie que j'ai jamais vu.
Oui, bien sûr, merci Ariette. Et le lit qui était tellement confortable que j'en voulais pas sortir.
Et la salle de jeu aussi.
Oui, les gars, ça suffit. On rend l'antenne maintenant.
Au revoir.